Bonjour chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour vous présenter l'émission L'Esprit du Livre qui vous propose chaque mois quelques livres de parution récente, plus ou moins, qui concernent directement ou indirectement la foi chrétienne. À mes côtés, le père Roger Willem qui d'abord va vous présenter un premier ouvrage dont le titre est « Situation de la France » de Pierre Manant, paru aux éditions des Clés de Brouwer en octobre 2015, donc tout récent.
Pierre Manant a été directeur d'études aux études sociales. Il est membre fondateur de la revue Commentaire et il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels La Cité de l'Homme, paru en 1994. Bref, la représentation dominante de notre histoire nous fait remarquer l'auteur, qui peut prendre des formes savantes ou populaires, peut être résumé ainsi. L'homme moderne est devenu majeur et n'a plus besoin de religion. Il est désormais son propre maître. Le problème, c'est que certains semblent prendre la religion de plus en plus au sérieux, par exemple les musulmans, et de façon plus générale, on peut dire que la religion doit être prise au sérieux tout simplement parce que l'idée de Dieu ou du divin, qu'on soit athée, agnostique ou croyant, indique une question inséparable de notre humanité. Une des thèses de ce livre, c'est qu'il n'y a pas de société laïque, contrairement à ce que pourrait penser en France en particulier. La laïcité s'applique à l'État qui s'impose de rester neutre entre les religions ou plus largement entre les doctrines. Mais ce régime politique ne change pas la condition des hommes. La religion garde une place dans leur vie et cette place est particulièrement difficile à saisir. Il y a, dès le début de l'ouvrage de Pierre Manant, une remarque particulièrement fine que nous pourrions nous approprier. C'est de toute brûlante actualité. Je cite... Les actes de guerre commis au début de l'année 2015 à Paris, Montrouge et Vincennes ne pour ainsi dire rien changer aux dispositions ni aux délibérations ni aux actions de notre pays. Ce n'est pas la première fois dans la période récente que des événements cruels qui auraient dû transformer profondément le paysage moral et politique ne font que confirmer la déconcertante immobilité. La bulle d'émotion suscitée par l'événement fut cette fois immense, certes, il est vrai, mais elle se révéla aussi insubstantielle que les précédentes. Nos représentants répètent avec la même ardeur les mêmes phrases creuses et nous les récompensons par un sursaut de popularité également improductif. Alors, gouvernants et gouvernés jouèrent dûment leur rôle respectif dans la tragédie d'un grand pays qui refuse obstinément de se mettre en défense pour ne pas avouer qu'il s'est mis en danger. Et Pierre Manant fait remarquer que nous avons peut-être une excuse dans cette manière d'exister en tant que nation. Nous ne savons que faire parce que nous ne savons que penser. Nous ne savons que penser ni que faire parce que nous ne parvenons pas à identifier les problèmes qui se posent à nous. Et peut-être ces problèmes le révéleront-ils insolubles. Mais nous ne le serons jamais si nous ne parvenons pas à les identifier. Cela, première démarche. Si nous voulons commencer à secouer notre paralysie, eh bien, il faudrait donc discerner ordonner les éléments pertinents de la situation. C'est un livre que nous recommandons spécialement aux hommes politiques et à tout citoyen pour qu'ils deviennent un peu plus conscients de la situation de la France. Il y a déjà une période de l'histoire de France qu'on a occultée et qui est toujours présente dans notre vie quotidienne, dans l'inconscient national. C'est la grande défaite de juin 1940 que nous n'avouons pas et qui est pourtant bel et bien présente dans cet inconscient collectif qui a fait de notre pays un pays qui a été blessé, qui a été repris en profondeur par cet échec qui a été préparé par l'immobilisme, l'inconscience, le manque de lucidité de nos dirigeants politiques. C'est une situation que nous ne parvenons pas à surmonter. Il faut le reconnaître. Alors, ce livre de Pierre Manant, nous le recommandons parce que c'est une lecture qui pourrait nous permettre à parvenir à une plus grande lucidité. C'est un livre destiné à tous les âges, à commencer par ceux qui sont étudiants aujourd'hui et qui rêvent de devenir des hommes politiques, peut-être président de la République, mais pour y parvenir, que de travail d'humilité à entreprendre pour acquérir la lucidité de celui qui doit voir loin, large et en profondeur pour sauver l'homme.
Merci beaucoup, Père Willem. Donc, je vous rappelle le titre de ce livre, « Situation de la France » de Pierre Manant, qui vient de paraître en octobre 2015 aux éditions des Clés de Brouwer. À mon tour, à présent, au risque de ne pas paraître très original, quelques mots à propos de l'encyclique du pape François, Laudato si, sur la sauvegarde de notre maison commune. Car je voudrais apporter à mon tour ma contribution pour que cette encyclique soit diffusée et lue le plus largement possible. D'abord parce que c'est un texte qui s'adresse à tous, à toute l'humanité et pas seulement aux chrétiens, et que sa lecture est facile. Son style est à l'image du pape, simple, direct, clair. Ensuite, parce que le texte apporte un éclairage essentiel sur le problème écologique, d'une largeur de vue peu commune. Il s'appuie, il faut bien le dire, sur des informations scientifiques du monde entier et sur les conférences épiscopales de tous les continents. Nous n'y voyons donc plus l'écologie par le simple petit point de vue occidental ou européen, mais avec tous ces enjeux mondiaux. Et cela donne un véritable retentissement à ce qui n'aurait pu être qu'une analyse de plus dans le champ écologique, mais qui devient une démonstration d'une force assez écrasante. Après la lecture de cette encyclique, il n'est plus possible de minimiser les dérèglements qui vont entraîner des bouleversements planétaires, tant sur le plan de la nature que du point de vue humain. Mais le pape va beaucoup plus loin qu'une simple analyse scientifique des problèmes. Il met aussi l'humanité devant ses responsabilités morales et spirituelles. Il expose sans ménagement les responsabilités des pays riches, qui sont les premiers acteurs des perturbations écologiques par la pollution, le gaspillage égoïste, la poursuite aveugle du profit et la quête d'une croissance à n'importe quel prix, y compris celui du sacrifice des espèces animales, et sans voir qu'une immense partie de l'humanité s'appauvrit et subit déjà des conditions de vie terrifiantes. Les mots du pape sont parfois redoutables. Par exemple, lorsqu'il dit, je cite, « L'humanité a déçu l'attente divine ». Ou encore, « L'activité humaine a dévié ». Ou enfin, « L'humanité est en danger d'autodestruction ». Et il ne nie pas d'ailleurs que le christianisme a pu avoir une part de responsabilité dans ces déviances, par une mauvaise interprétation des textes bibliques, principalement celui de la Genèse, en donnant trop d'importance à la domination des humains sur les autres créatures. Il consacre donc tout un chapitre à une meilleure interprétation des textes bibliques, pour une autre anthropologie au service de la création, en communion avec elle. Et il en conclut, je cite, « À l'homme incombe la responsabilité de cultiver et protéger le jardin du monde. » Mais l'exhortation pontificale va pourtant dans le sens d'un avenir meilleur possible, car le pape reste optimiste. Il croit en la capacité de l'humanité à se ressaisir, et il donne de nombreuses pistes pour faire surgir un renouveau mondial et une espérance pour tous. Cet optimisme part d'un sentiment de compassion pour toute la création. Il croit en une fraternité planétaire. Il affirme qu'une communion universelle est possible parce que tout est fondamentalement un et que tous les problèmes sont liés. L'enseignement original de ce texte est donc celui d'une écologie intégrale qui traite le mal à sa racine dans le cœur de l'homme. Il engage à une profonde conversion pour reprendre conscience de nos responsabilités tant individuelles que collectives. Il ne s'agit donc pas seulement des problèmes de climat, de pollution ou de biodiversité, mais aussi de justice sociale, de partage équitable des richesses et surtout d'un appel à une vie plus sobre, plus respectueuse de la vie et de la nature, à une attitude spirituelle d'action de grâce pour la beauté et la générosité de notre terre qu'il faut apprendre à aimer et à protéger, tout simplement parce que c'est là le vrai projet de Dieu pour l'humanité. Donc, si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à acheter Laudato Si du pape François, ce petit livre à lire, relire et à méditer de toute urgence. Le père Willem va à présent vous présenter un deuxième ouvrage dont le titre est « La vraie gloire est ici » de François Scheng, qui vient de paraître en octobre 2015 aux éditions Gallimard.
Oui, je serais ravi de mettre en relation François Scheng avec François, deux François, car François de Rome serait ravi de rencontrer cet homme qui a un sens de l'homme, de l'être humain, de la beauté du monde, à travers ce livre, La vraie gloire est ici, maintenant présente. Vous connaissez François Cheng, il est né en 1929 en Chine. Il a enseigné et l'a traduit de la poésie française en chinois. Il a publié parallèlement plus d'une trentaine d'écrits en français, des romans, des poèmes, des méditations, des essais, dont le dit de Tani, où l'éternité n'est pas de trop, et cinq méditations sur la mort. Avec ce livre de poèmes, François Cheng ose de déroutants alliages. L'âpreté et la joie, le silence et la lucidité, la mort et les nuages, les oiseaux et les larmes, les mois et les étoiles. Une très riche expérience humaine et spirituelle révélée donc par ces mots, cette poésie. C'est qu'à force d'avoir mordu la poussière d'ici-bas, les mots n'en finissent pas de renaître. Il suffit de la splendeur d'un soir pour que l'univers entier résonne soudain. Il suffit de la sincérité d'un seul cœur brisé pour que la fulgurante beauté délivre de la fragilité humaine, car tout est à revoir, tous les rires, tous les pleurs, toute la gloire. Dans ces pages, il y a réellement un souffle de vie qui vous prend à la gorge. C'est une voix qui éperonne la pensée avec une acuité foudroyante et douce. N'oublions pas que le jeune François Cheng a débarqué un jour à Marseille ne sachant pas un mot de français. Après de longues années difficiles, en étant simplement au service d'un restaurant chinois pour laver la vaisselle, voici qu'aujourd'hui, il est membre de l'Académie française. On souhaiterait que beaucoup de jeunes Français regardent vers cet homme et découvrent ainsi les capacités d'un être humain à déployer toute son humanité pour être créateur de liens et de vie. Voici un premier poème que nous avons le plaisir de lire, car le plaisir, c'est ce qui dilate le cœur et change l'âme dans sa profondeur. Voici, le vrai silence vient au bout des mots, et les mots justes ne naissent qu'au sein du silence. De même, la vraie voix se continue par la voix, mais la juste voix ne surgit qu'au cœur de la voix. Alors évidemment, ce texte, il faut le lire et l'entendre, car quand on parle de voix, V-O-I-E, et voix, O-I-X. Voici un autre poème qui nous permet de nous éveiller. Il a d'ailleurs été dédié au célèbre Max Gallo. N'éteins jamais ton feu, garde le rouge et vif au bout de l'île perdue, au bord de tout. Viendrait à ton secours nul besoin de savoir quelle déesse des eaux, quel ange du vent. Il importe que ta flamme jamais de luire ne cesse, qu'un jour l'éternité la reconnaisse. Et puis il y a cette notion de chemin, de voie, de cette ouverture qui nous conduit au-delà de nous-mêmes, que nous portons déjà en nous, dans le secret de notre être. J'erre sans attache sur la voie, en plein cœur de la lente chute des feuilles et des étoiles. Au lointain appel d'une voix, je me retourne et je vois le visage et le regard. L'automne mûr détient encore tout l'or secret du royaume, par-delà flamme et larmes, du fond de la frondaison, un chant trace la sente qui mène à l'inapaisable fontaine. Oui, François Cheng est à notre disposition pour nous initier à la beauté du monde. C'est la parole d'un penseur, certes, d'un poète, d'un homme passionné qui ne craint rien, pas même d'affirmer que la vraie gloire est ici.
Merci beaucoup, Père Willem. Donc, le titre du livre « La vraie gloire est ici », qui est un livre de poèmes de François Cheng, paru aux éditions Gallimard en ce mois d'octobre 2015. Je vous dis à présent quelques mots à propos d'un livre dont le titre est « La Bible, quelles histoires ?» au pluriel, de Thomas Römer, un livre d'entretien avec la journaliste et archéologue Estelle Villeneuve, paru à la fin de l'année dernière chez Bayard, dans la collection Labor et Fides. Thomas Römer est professeur au Collège de France en tant que spécialiste du milieu biblique et histoire d'Ancien Testament. Et il est protestant, exégète selon l'approche moderne historico-critique, c'est-à-dire qu'il étudie l'histoire de la rédaction de la Bible à partir des circonstances sociales, politiques, culturelles ou théologiques qui ont conduit à son écriture. Il est interrogé dans ce livre par Estelle Villeneuve, journaliste à la revue Le Monde de la Bible, qui est également archéologue et spécialiste du Proche-Orient ancien. C'est dire si le niveau intellectuel de cet ouvrage est élevé, mais il est néanmoins très clair et suffisamment simple pour être accessible à tous. Donc ce livre nous parle de l'approche scientifique de la Bible, qui a permis récemment des découvertes pour le moins surprenantes, dont je donne quelques exemples, que le dieu tutélaire de l'Israël ancien n'était pas célibataire, mais qu'il y eut longtemps une déesse à ses côtés, même dans le temple à Jérusalem, ou qu'Abraham n'était pas vraiment le grand-père de Jacob, que Joseph n'était pas vraiment un fils de Jacob, et que Moïse lui-même n'était pas du tout celui que la Bible nous présente. Bref, le travail de l'exégèse historico-critique met à mal la lecture naïve et simpliste de la Bible. On comprend d'après ce livre que les textes bibliques ont été rédigés longtemps après les événements qu'ils racontent et qu'ils veulent servir surtout des intentions plus idéologiques et théologiques que l'histoire. Et que toute lecture fondamentaliste de la Bible est une absurdité, et aussi que beaucoup de certitudes traditionnelles sont difficiles à conserver devant l'assaut des évidences archéologiques. En fait, la Bible est un assemblage de textes d'origines différentes, mis ensemble d'abord pour servir la construction progressive d'une identité nationale, pour réunir des populations d'origines diverses et de sensibilités religieuses différentes, pour arriver à en faire finalement le peuple d'Israël. Le livre de Thomas Römer permet donc de mieux comprendre certaines contradictions internes qui n'ont pas manqué d'intriguer des lecteurs novices de la Bible. Les apparentes répétitions qu'elle contient, par exemple, pourquoi deux récits différents de la création, pourquoi deux récits de la traversée de la mer dite rouge, pourquoi trois différents codes de loi, etc. Tout cela, nous dit l'auteur, sert en fait à engendrer le respect de la pluralité à l'intérieur de la Bible comme à l'intérieur de la nation. Et cette pluralité va se rencontrer d'ailleurs dans le Nouveau Testament, car les quatre évangiles sont suffisamment différents les uns des autres pour qu'on comprenne la nécessité d'accepter une diversité de points de vue qui n'est pas un danger pour l'unité du peuple de Dieu. Ainsi, l'exégèse historico-critique, selon Thomas Römer, est une nécessité pour éviter toute dérive extrémiste de l'interprétation des Écritures. Elle est là pour déranger, dit-il, et pour empêcher qu'une tendance religieuse particulière s'impose sur les autres. En étudiant les textes bibliques dans une perspective littéraire et historique, comme le fait cet exégète, la foi dans le Dieu de la Bible ne peut pas être réduite à un savoir statique. Car la Bible appartient à tous, dit Thomas Römer, croyants et même incroyants. Et c'est seulement grâce à cette forme d'exégèse scientifique qu'elle pourra continuer d'être une vivante source d'inspiration dans le monde. Le livre de Thomas Römer, dont je vous rappelle le titre, « La Bible, quelles histoires ?» et qui est paru chez Bayard à la fin 2014, peut donc aider à décaper quelques idées poussiéreuses qui encombreraient nos esprits. Reste bien sûr que pour la foi catholique, cette forme d'étude scientifique ne peut être la seule forme d'approche de la Bible, comme le rappelle Vatican II, et qu'une lecture croyante demande qu'on y reconnaisse aussi et peut-être d'abord une force directrice qui vient de Dieu comme parole vivante, toujours présente pour conduire son Église. Après ces quelques mots, donc, je vous dis à bientôt, chers auditeurs, pour une prochaine émission.